trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Florent Robin au micro, nous sommes dans l'émission Vendredi Théâtre, l'émission en direct qui rend compte toutes les semaines de l'actualité théâtrale. C'est vrai que ce sont les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, eh bien moins de théâtre sur Montpellier. Tout le monde prend des vacances, tout le monde s'occupe des enfants, donc beaucoup moins de spectacles. Et heureusement qu'il y a les petits théâtres comme le théâtre Pierre Tabard pour nous offrir des spectacles pendant ces périodes estivales. Alors j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Quentin Gracias, bonjour.
Bonjour Florent.
Et Harry Grange, bonjour.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un spectacle qui se déroule actuellement à Pierre Tabard. Le théâtre Pierre Tabard que nous recevons décidément pratiquement toutes les semaines depuis quelques temps, puisqu'il y a beaucoup de choses à Pierre Tabard. Le spectacle s'appelle La Contrebasse et c'est d'après un texte de Patrick Suskind. Alors Patrick Suskind, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur de ce best-seller qui s'appelle Le Parfum, mais il a écrit donc ce monologue, La Contrebasse, qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par Jacques Villeray, je crois. Ouais. Oui, donc c'était dans les années 90, je ne me souviens plus exactement.
Peut-être 30 ans.
Peut-être même 30 ans, oui, ça va vite. Hein. Alors un monologue donc autour d'un instrument imposant, la contrebasse.
Eh oui, 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 c'est comme il le dit bien dans le texte, c'est l'instrument le plus grand, le plus imposant et malheureusement le moins fait pour jouer en solo. Ce qui pose bien sûr beaucoup de problèmes à ce contrebassiste. Et le texte tourne autour de ça.
C'est donc un contrebassiste qui est sur scène et qui nous parle de ses relations d'amour et aussi de haine avec son instrument.
Oui, et surtout de haine, pour pas trop en dire aux auditeurs, mais les 1h50 de monologue commencent au départ sur voilà, le fait que pour lui, la contrebasse, c'est sa vie et qu'il a la chance de pouvoir être dans l'orchestre national. Et au fur et à mesure, on se rend compte, et lui-même se rend compte que c'est peut-être pas si bien que ça, en fait.
Mais il commence par dire que, en fait, sans contrebasse, rien n'est possible.
Oui, oui, sans contrebasse, l'orchestre ne tient pas.
C'est la basse, en fait, qui donne le tempo pour lui.
C'est ça, c'est la basse qui est la base même de toute la musique. Et donc le monologue commence en fait sur ce personnage qui est fier en fait de montrer cet instrument qui est très élégant, qui est très imposant, qui est majestueux,
très féminin aussi,
très féminin formes. Aussi, grave comme la mort. et au fur et à mesure, il va partir. Le personnage va partir de cette carapace. Montrer ce, comment dire, cette espèce de, excusez-moi, je suis pas habitué à la radio.
Ça va venir. Donc il commence par nous présenter avec amour son instrument, un petit peu son histoire. Et puis après, il va commencer à dire, la place dans l'orchestre, c'est tout au fond. Voilà. Et en fait, c'est l'instrument qu'on ne voit jamais. On ne le voit jamais dans l'orchestre, on n'en tient jamais compte et on est toujours à l'arrière-scène.
Voilà, c'est un peu l'homme de l'ombre de l'orchestre, en fait.
Oui, puis il est aussi contraint par cet instrument. Il le dit dans le texte qu'à des moments, l'orchestre tout entier se lève pour saluer à la fin d'un concert. Et sauf que lui, avec cet instrument imposant, il ne peut même pas vraiment se lever et que tout le monde reçoit des avalanches d'applaudissements, le chef, le premier soliste, tout l'orchestre et lui est cantonné à être au fond.
Caché par son instrument.
Caché par son instrument depuis, comme il le dit, depuis 1750. Ce qui est assez dur pour lui.
Parce qu'en fait, dans un orchestre, pour les gens qui se rendent compte, il y a d'abord les cordes, les petites cordes, les violons, les altos. Après, il doit y avoir, si je ne me trompe pas, les instruments avant.
Voilà, les violoncelles, les altos, les bassons, les cuivres. Et donc, tout à la fin, les contrebasses. Et derrière lui, il y a tout juste encore le percussionniste avec ses timbales, mais ce n'est que théorique.
Et lui, on le voit, le percussionniste, parce que ça fait du bruit. Donc on le voit.
Ça fait du bruit, puis il est en hauteur. Donc, si bien que tout le monde le voit.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à monter donc cette contrebasse? Parce qu'il y a eu plein de versions au théâtre, c'est presque monté tous les ans. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à monter ce spectacle?
En fait, tout est parti. avec Quentin, nous, ça fait 9-10 ans qu'on se connaît, qu'on fait du théâtre ensemble. Là, nous, on est sortis tous les deux du conservatoire de Montpellier. Et avant, on en faisait à Pau, dans un petit théâtre. Et ça fait 10 ans qu'on se dit qu'on a envie de monter une pièce ensemble. Donc, on a cherché plein de textes. J'avais pensé à monter Le Souper ou d'autres
de
textes.
De Briseville.
Et bon, le problème du Souper, c'est qu'il fallait vraiment des comédiens âgés, sinon ça marchait pas.
Et Le Souper, c'est un dialogue entre Talleyrand et Fouché.
Ouais. Et qui va décider de l'avenir de la France. C'est un texte que j'aime beaucoup, mais malheureusement, c'était un peu difficile pour nous de le monter.
Bah, à l'âge de 24 ans, c'est pas forcément, oui.
Voilà,
t'as pas encore l'âge.
Non, on n'a pas
plutôt des comédiens qui ont dépassé la cinquantaine. Hein.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc, on a cherché pas mal de textes. Et en fait, moi, la contrebasse, c'est la première pièce de théâtre, je pense, que j'ai vue de ma vie. Donc, j'étais assez minot. Et je pensais que ça m'avait marqué. J'ai gardé quelques souvenirs d'un texte très fort et assez bouleversant. Et donc, je me suis remis à lire un peu de Susskind. Je suis retombé sur Le Pigeon, qui est un texte, enfin, moi, que je trouve exceptionnel. Et donc, ça m'a donné envie de retrouver le texte de la contrebasse. Et en fait, en le lisant, je me suis aperçu qu'il y avait... Il partait de cette thématique qui était la musique classique, mais pour après dériver sur tout un tas de thèmes qui étaient très intéressants sur la solitude contemporaine, tout en gardant beaucoup d'humour et une mécanique féroce propre à Susskind. Et en fait, en relisant le texte, je me suis aperçu que Quentin collait parfaitement en fait au personnage, c'est-à-dire d'avoir à la fois cette puissance comique qui peut avoir et en même temps cette force de dramatique et cette force de rupture qui peut surprendre assez facilement enfin le spectateur. Et donc à partir de là, on a commencé à faire quelques lectures, à voir un peu si c'était possible de monter le projet, parce que bon, faut quand même se prendre les 1h50 de texte.
Oui.
C'était quand même un gros défi pour lui en sortant du conservatoire, parce que passer de jouer quelques scènes par-ci par-là à un monologue d'1h50, c'est quand même un gros défi, et puis aussi de trouver une contrebasse, parce que mine de rien, c'est pas évident de trouver une contrebasse.
C'est un instrument encombrant.
C'est ça, oui. Et d'ailleurs j'ai vraiment découvert à quel point c'était encombrant, parce qu'aller chercher une contrebasse à l'autre bout de la France en train, c'est vraiment, vraiment encombrant. Et donc à partir du moment où on est tombé sur celle-là, cette magnifique contrebasse noire, le projet était lancé. Après on a eu un peu de mal
Et pour obtenir les droits, comment ça s'est passé?
Bah, tout simplement, en fait, faire une demande à la SACD.
Parce que des fois, c'est un peu compliqué pour obtenir des droits, et là, ouais. Ça s'est bien passé.
Non, là, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, non.
Donc, on disait un spectacle d'1h50, c'est un monologue. Vous n'êtes pas donc tout à fait seul sur scène, puisque vous êtes toujours avec cette contrebasse.
Ah oui, c'est justement ce qui est dur avec les monologues, c'est que tu peux te reposer que sur toi-même, sauf que là, on a voulu travailler ce texte avec l'appui de la contrebasse et mine de rien, bon, même si elle est pas vivante, mais tout au long du spectacle, je me repose pas mal de fois sur cette contrebasse et au fur et à mesure, elle devient vraiment un appui.
Bah, ça, c'est qu'on a essayé aussi d'aborder le monologue, non pas comme un simple monologue, mais aussi comme une sorte de duo, c'est-à-dire de prendre la contrebasse en compte à tel point que elle finit par prendre vie pour le personnage et elle finit par plus ou moins lui parler, il finit par lui répondre. Quoi.
Je disais tout à l'heure que c'est un chant d'amour et de haine sur la contrebasse. Ouais. Et il commence d'ailleurs par une espèce d'historique amoureux de toute l'histoire de la contrebasse. Est-ce que vous pourriez nous donner un extrait où il parle justement de l'histoire de cet instrument?
Écoutez, bien sûr. Quatre cordes, mi, la, ré, sol, tout en acier, entouré d'un fil de chrome. Autrefois, c'était du boyau. C'est sur la corde de sol, ici, en haut, qu'on joue surtout en solo, quand on en a la possibilité. Ça coûte une fortune, une corde. Je crois qu'à l'heure actuelle, un jeu de cordes, ça vaut près de 160 marques. Quand j'ai débuté, ça en coûtait 40, c'est dingue. Bon, donc, quatre cordes, accordées de carte en carte, mi, la, ré, sol, plus une corde de do ou une corde de si pour les basses à cinq cordes. C'est aujourd'hui la règle absolue, depuis l'orchestre symphonique de Chicago jusqu'à l'orchestre d'État de Moscou. Mais avant d'en arriver là,
Que dans Poignade, rien n'était uniforme, ni le nombre de cordes, ni la façon des accordés, ni même la taille de l'instrument. Il n'y a que la contrebasse de tous les instruments qui ont autant de modèles différents. Au XVIIIe siècle et XIXe siècle, c'était la pagaille la plus totale. Basse de gambe, grande basse de viol, grand violon à frette, subtraviolon sans frette, accord de tierce, de quarte, de quinte, basse à trois, quatre, six cordes, huit cordes, oui, en forme de F ou de C, de quoi vous rendre fou ? Jusqu'en plein XIXe siècle, ils ont, en France et en Angleterre, une basse à trois cordes accordée à la quinte. En Espagne et en Italie, c'est une basse à trois cordes accordée à la quarte. Tandis qu'en Allemagne et en Autriche, c'est une basse à quatre cordes accordée à la quinte. Bon, après, les Allemands ont imposé la basse à quatre cordes et l'accord de quarte. Oh, tout simplement parce qu'à l'époque, les meilleurs compositeurs étaient allemands. Encore qu'une basse à trois cordes ait un plus beau son, ça grince moins, c'est plus mélodieux, c'est tout simplement plus beau. Mais en revanche, les Allemands avaient Haydn, Mozart, et les Fischbach, et ensuite Beethoven et tous les romantiques. Oh, eux, la sonorité de la contrebasse, ils s'en foutaient. Pour eux, la basse n'était rien que le tapis sonore où ils pouvaient poser leurs œuvres symphoniques, pour lesquels restent jusqu'à aujourd'hui ce qu'il y a de plus grand en matière de musique. Mais tout cela repose sans conteste sur les épaules de la contrebasse à quatre cordes, depuis 1750 jusqu'en plein XXe siècle. Deux siècles entiers de musique d'orchestre. Et c'est cette musique-là qui a balayé la basse à trois cordes. Laquelle s'est défendue. Naturellement, vous pensez bien. À Paris, tant à l'opéra qu'au conservatoire, on a continué à jouer sur des basses à trois cordes jusqu'en 1832, l'année de la mort de Goethe, comme... Chacun sait. Mais alors, Cherubini a mis les trois cordes au rancard. Luigi Cherubini, italien certes, mais plutôt allemand par ses goûts musicaux. Ne jurez que par Gluck, par Haydn, par Mozart. Il était à ce moment-là surintendant de la musique à Paris. C'est lui qui a tranché dans le vif. Ce fut un beau tollé, vous pensez bien. Une clameur indignée s'éleva des rangs des contrebassistes français en voyant cet Italien germanophile leur enlever leurs trois cordes. Il n'en faut pas beaucoup pour indigner les Français. C'est ce qui s'est passé. On sait bien que dès qu'une idée de révolte quelque part, on sait bien que les Français l'adoptent. C'est ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Même chose au XIXe, et ça continue au XXe. Et même jusqu'à maintenant. J'étais à Paris, début mai. Il y avait grève des éboueurs, grève de métro, des coupures de courant trois fois par jour et une manifestation de 15 000 personnes. Vous n'imagineriez pas dans quel état étaient les rues après. Les magasins saccagés, les vitrines brisées, les voitures, tout est raflé. Et le sol était jonché de tracts et d'affiches et de toutes sortes de papiers. Oh, c'était à faire peur, croyez-moi. Bon, toujours est-il qu'à l'époque, en 1832, ça ne les a avancés à rien. La contrebasse à trois cordes a bel et bien disparu, et définitivement. Il faut dire que c'était plus supportable, cette absence d'uniformité.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, c'est tout à fait différent de dire un texte sur scène et de le dire devant un micro. Et c'est vrai que les comédiens ont peu l'habitude de parler devant un micro.
Ah bah moi, pour moi, c'est la première fois la radio, donc oui, c'est pas forcément facile.
J'allais vous poser une question, est-ce que vous avez une formation musicale ?
Alors je sais pas si je devrais le dire, mais en fait non, ouais, j'ai aucune formation musicale. D'ailleurs, c'est justement on a essayé de c'est de la triche. on a essayé de travailler là-dessus pour que tout en sachant que je n'ai aucune formation musicale. On a essayé de travailler sur le fait que même en ayant cela, les personnes qui vont venir voir la contrebasse, par la magie du théâtre, ne s'en rendent pas compte. Mmh. Et apparemment, des retours qu'on a déjà eus, ça marche à peu près bien. Les gens ont l'impression que au final, je sais de quoi je parle et que
vous savez tenir un archet.
Voilà, que je sais tenir un archet et que...
On a un petit problème de micro, visiblement. On va faire une petite pause musicale avec Camille Saint-Saëns, un extrait donc du Carnaval des animaux, puisque la partie qui est consacrée à l'éléphant est jouée à la contrebasse.
Et voilà donc un extrait de Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux, la partie consacrée à l'éléphant. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Divergence FM pour Vendredi Théâtre et nous parlons du spectacle La Contrebasse avec Quentin Gracias et Harry Grange. C'est vrai qu'il y a très peu de compositions pour contrebasse seule.
Oui, oui, il le dit dans le texte. Qu'il y a à peu près 50 concertos pour contrebasse et vraiment pas plus.
Et généralement par des auteurs un petit peu obscurs, un petit peu oubliés.
Ça, hein. C'est ça, voilà, à moins que les auditeurs connaissent Johann Sperger ou Van Hall ou Koussevitzky, peut-être. Hein, justement.
Personnellement, je ne connais pas.
Mais justement, il y a un passage dans la pièce où pour lui, ça lui donne une bouffée d'émotion et c'est... Ça va même jusqu'à le faire pleurer de se rendre compte qu'au final, bah, les grands compositeurs qui ont composé pour de la contrebasse, et bah, au final, bah, personne ne les connaît en fait.
C'est vrai que là on parlait donc de Saint-Saëns, il se sert lui de la contrebasse donc dans ce petit extrait d'une minute trente, mais il s'en sert comme un ressort comique.
Oui, oui, justement il vient à dire que bah voilà, ça dure une minute et demie, c'est pour contrebasse solo et piano, Allegretto Pomposo, ça dure une minute et demie et que c'est tout simplement à mourir de rire. Il utilise aussi la Salomé de Richard Strauss, les cinq parties pour contrebasse, et que en tant que contrebassiste, c'est tout bêtement risible de n'avoir que ça, et qu'au final, les compositeurs qui écrivent pour contrebasse le font par plaisanterie et non par...
Par conviction.
Par conviction.
Par conviction
musicale. Parce qu'ils n'ont pas le goût de composer pour contrebasse.
C'est vrai qu'il y a des concertos pour cordes, il y a des concertos pour clarinette, il y a des concertos pour basson, des concertos pour violoncelle bien entendu, mais les concertos pour contrebasse ne sont pas légion chez les compositeurs renommés.
Non, non, non. Il y a tout juste encore Dietersdorf qui a composé... pour contrebasse. Et d'ailleurs, il dit justement que Dietersdorf, par rapport à Mozart, c'est de la gnognotte, qu'il avait composé plus d'une trentaine de concertos pour un instrument soliste, pour clavecin et autres broutilles. Et enfin, voilà, il n'y a vraiment pas énormément de choses. La contrebasse, pour ce personnage, est vraiment un accompagnement plus qu'un instrument à part entière.
Et pourtant, il y a le jazz hein, qui donne une certaine place à la contrebasse. Mais lui n'aime pas le jazz.
Non, il déteste le jazz. Même s'il a fait du Dixieland plus tôt dans sa carrière. Mais pour lui, le jazz est une ânerie monumentale de juste gratouiller sur des cordes. Pour lui, ce n'est même pas pensable, ce n'est plus pensable, en fait.
C'est aussi un personnage qui aime, je pense, beaucoup l'ordre et la discipline.
C'est le côté improvisation,
voilà,
je pense, dans le jazz.
C'est que le jazz représente voilà, ce côté inconnu où tout le monde fait un petit peu
anarchique.
Un petit peu anarchique, voilà, c'est pas concevable. Lui, c'est la hiérarchie de l'orchestre, l'ordre et la discipline.
La deuxième partie du spectacle, donc, à un moment, ça bascule. Il commence donc par un chant d'amour. Et après, ça va être vraiment pratiquement un cri de haine vis-à-vis de son instrument. Puisque, comme il le dit à un moment, on ne naît pas contrebassiste, on le devient. Très peu de contrebassistes ont commencé par jouer de la contrebasse.
Oui, il le dit bien que tous les contrebassistes qui sont à l'Orchestre National avec lui souffrent de cette condition. Ils sont tous en psychanalyse. C'est vraiment pas une condition facile pour lui. Et effectivement, cette deuxième partie du spectacle, c'est une sorte de chute sans fond où il va au plus profond de la relation qu'il a avec cette contrebasse, de la relation qu'il a avec l'autorité et la structure même de l'orchestre, qui est quelque chose de très... structuré, très très fermé.
Et après, donc, il nous parle un petit peu de ses relations amoureuses et que la contrebasse ne lui permet pas vraiment d'assumer, puisqu'il est amoureux d'une contralto et qu'il ne le remarque pas, qu'il ne le remarquera jamais, parce que lui, il est caché derrière son instrument et tout au fond de l'orchestre.
C'est justement, c'était hier, il y avait quelqu'un qui est venu voir le spectacle et qui m'a dit... Qu'au final, on voit que pendant la pièce, en fait, le personnage se cache derrière tous ces rêves que chacun de nous font, en s'imaginant des histoires, en se disant bon, peut-être qu'elle m'a vu, je sais pas, je lui ai peut-être tapé dans l'œil, alors que, bah, en fait, vu que ce personnage n'a absolument rien fait pour que effectivement elle le voit, il peut toujours rêver, en fait.
Il en arrive à reporter tout son dépit sur sa contrebasse. Il y a même un moment où il veut la casser, il voudrait bien la casser, sa contrebasse.
Ouais, voilà, c'est au bout d'un moment, il confond un peu, enfin, dans sa logique, il confond un peu tout ce que représente la contrebasse au niveau de sa place dans la société, et puis de ce qu'il est, de ce qui lui vraiment. Et donc au bout d'un moment, il va commencer à se représenter la contrebasse comme étant la femme de ses rêves, et en même temps celle qu'il déteste le plus au monde. Il va un peu tout inverser, un peu tout mélanger, et la contrebasse va vraiment représenter toute sa vie au final. C'est-à-dire toute sa vie, ça va se représenter dans un seul unique objet.
De son ressentiment.
Voilà.
On va peut-être voir un petit extrait où il aborde sa situation de contrebassiste.
Très bien. Non, vraiment, on ne naît pas contrebassiste. On le devient par des voies détournées ou par l'effet du hasard et de la déception. Je peux bien dire que chez nous, à l'Orchestre National, sur 8 contrebassistes, je n'en connais pas un qui n'ait été malmené par la vie et qui ne porte sur le visage les traces de blessures qu'il en a reçues. Une destinée de contrebassiste typique, c'est par exemple la mienne. Un père dominateur, fonctionnaire, aucun sens artistique. Une mère faible, jouant de la flûte et passionnée par les arts. Et l'enfant que j'étais idolâtrait sa mère. Ma mère n'avait Dieu que pour mon père. Mon père adorait ma petite sœur. Et moi, personne ne m'aimait. Je parle subjectivement, bien sûr. Parraine pour mon père, je décidais de n'être pas fonctionnaire, mais artiste. Mais pour me venger de ma mère, je choisis l'instrument le plus grand, le plus encombrant, le moins fait pour jouer en solo. Et pour la vexer quasi mortellement, tout en faisant un pied de nez à mon père dans sa tombe, voilà que je deviens tout de même fonctionnaire. Contrebassiste à l'Orchestre National... Troisième pupitre. Voilà pour l'aspect psychanalytique de cet instrument. Seulement, ça sert pas à grand-chose de le savoir, parce que la psychanalyse est au bout du rouleau. Tout le monde le sait aujourd'hui que la psychanalyse est au bout du rouleau. Elle-même est la première à le savoir. Parce que, et d'une, la psychanalyse soulève bien plus de questions qu'elle n'est capable d'en résoudre. Comme une hydre, je parle aux figurés, qui se trancherait la tête elle-même, et c'est là sa contradiction interne impossible à surmonter et qui l'étouffe. Et parce qu'ensuite, la psychanalyse est aujourd'hui devenue marchandise courante, tout le monde le sait. Tenez, sur les 126 musiciens que compte l'orchestre, plus de la moitié sont en analyse. Autant dire que ce qui, voilà un siècle, aura été ou aurait pu être une découverte scientifique sensationnelle, est aujourd'hui tellement normal que personne ne s'en émeut. À moins que ça vous étonne qu'il y ait 10% de dépressifs ? Ça vous étonne ? Moi, ça m'étonne pas. Vous voyez ? Et j'ai pas besoin de la psychanalyse pour ça. Il aurait été beaucoup plus important, puisque nous en sommes à parler de ça, d'avoir la psychanalyse il y a 100 ou 150 ans. Ça nous aurait par exemple évité un certain nombre de choses de Wagner. Car enfin, ce type était un névrotique profond. Une œuvre comme Tristan, par exemple, la plus grande qu'il ait produite, comment est-elle née ? Elle est née uniquement parce qu'il couchait avec la femme d'un ami qu'il a entretenu, lui, Wagner, pendant des années. Des années ! Et cette tromperie, ce comportement minable, le tarabustait tellement lui-même qu'il était obligé d'en faire ce qui est censément la plus grande tragédie amoureuse de tous les temps. Refoulement total par sublimation totale, félicité suprême, gna gna gna. Vous connaissez.
On va peut-être s'arrêter là. Merci. Je sais que c'est pas facile pour vous. On va rappeler donc que le spectacle s'appelle La Contrebasse. C'est au théâtre Pierre Tabar. Je n'ai pas les horaires. C'est tous les soirs jusqu'à 21h.
C'est tous les soirs à 21h, sauf ce dimanche à 17h.
Voilà. Je vais dire un petit mot avant. Vous allez dire un petit mot, puisque en dehors d'être comédien, vous faites partie un petit peu de l'équipe Pierre Tabar. Il y a un festival jeune public ces temps-ci.
Oui, c'est le festival Festimum qui a plusieurs années maintenant. Et donc pour ces vacances de la Toussaint, au Théâtre Pierre Tabar, on peut voir au maximum 4 spectacles pour enfants. Il y a C'est comme ça, le Petit Chaperon Rouge Enchanté, Où est passé Zoé et Lune et Accordéon. Et c'est des spectacles qui vont... Il y a Peter Pan aussi. Et c'est par exemple, Peter Pan est à partir de 3 ans. Vous avez Lune et Accordéon à dès 6 mois. Enfin voilà, il y en a pour tous les petits. Et
c'est pendant les vacances de la Toussaint.
Voilà.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.